Bonjour à vous, chers frères et sœurs du district. La période de confinement actuelle ne nous permet pas de nous rencontrer comme nous en avions l'habitude, mais cet isolement ne doit pas nous empêcher de réfléchir et de nous poser les vraies questions. Je voudrais donc prendre, comme je l'ai fait la semaine dernière, juste quelques minutes pour partager avec vous, non pas un sermon, mais plutôt quelques réflexions qui me semblent utiles dans cette période où beaucoup de personnes sont inquiètes, impatiente et parfois même désespérée. Cette période d'épidémie et de confinement est l'occasion pour beaucoup d'entre nous de prier. Alors on prie parce qu'on a peur d'être contaminé, on prie pour que Dieu fasse en sorte qu'on ne se retrouve pas à l'hôpital en train de lutter pour échapper à une mort horrible. On prie pour demander à Dieu d'arrêter cette pandémie. On prie pour lui demander de guérir ceux qui sont malades, de soulager ceux qui souffrent. On prie pour qu'il accompagne le personnel soignant et tout cela est très bien. Et je nous encourage à continuer dans ce sens. Je nous invite cependant à ne pas oublier de demander à Dieu dans nos prières de nous protéger, certes, mais aussi, devrais-je dire surtout, de faire en sorte qu'à travers cette difficulté, que nous puissions vivre vraiment une expérience de transformation réelle. Qu'il fasse en sorte que cet épisode douloureux serve au moins à quelque chose dans nos vies. Alors nous ne pouvons pas empêcher à l'épidémie d'être là, mais nous pouvons au moins, puisqu'elle est là, nous assurer que nous tirions les leçons qu'il faut de cette épreuve difficile. Alors essayons de considérer au-delà de l'épidémie d'aujourd'hui et voir tout ce que cela va nous laisser en héritage. Avouez avec moi, frères et sœurs, que ce serait triste. Mais vraiment triste, de traverser une crise sanitaire aussi terrible que celle-ci, et puis une fois l'épidémie passée, que nous demeurions les mêmes personnes qu'auparavant. Rien n'a changé. On dit parfois que le naturel, même lorsqu'on le chasse, revient au galop. Et dans bien des cas, c'est vrai, c'est très vrai. Ce serait dommage de ne pas laisser l'Esprit de Dieu nous amener à être encore de meilleurs chrétiens que nous l'étions hier, que nous le sommes aujourd'hui. Comme je vous le disais la dernière fois, on a parfois l'impression que c'est maintenant que la mort rôde autour de nous, maintenant que le risque pour n'importe lequel d'entre nous de se retrouver à l'hôpital maintenu en vie grâce à un respirateur, maintenant que ce risque-là est bien réel, maintenant que nous ne pouvons plus nous réunir dans nos lieux de culte, c'est maintenant que l'on voit un élan de fraternité, de solidarité, les uns prennent les nouvelles des autres et c'est très bien. On s'encourage et on souhaite le meilleur à l'autre. C'est très bien, continuons de le faire. Moi-même, je le fais. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réaliser que parfois, ce sont les pires situations qui font sortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Le risque, c'est que une fois que nous aurons tourné cette page, lorsque la vie redeviendra normale et qu'il n'y aura plus de confinement, plus d'attestation à montrer pour sortir de chez soi, plus de courses à faire à la sauvette pour essayer de ne pas ramener le virus à la maison, quand la vie normale reprendra son cours, que restera-t-il de tout cela? Garderons-nous ce même élan dans les relations fraternelles, dans la solidarité, dans la prière fervente? Peut-on imaginer que lorsque tout cela sera passé, les réunions de prière feront le plein, les veillées de prière réuniront des foules et que les églises seront maintenant trop petites pour accueillir tous ceux qui maintenant se rendent compte que la vie est futile sans Jésus, qu'elle ne tient qu'à un fil et que du jour au lendemain, nous pouvons tout perdre. Je me demande vraiment à quoi demain ressemblera pour nous chrétiens. Quel genre d'église serons-nous? Alors comme je ne suis pas prophète, je n'en sais pas plus que vous, mais je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il y a trois possibilités. Première possibilité, soit cette épidémie et la crise qui va avec a créé chez nous un déclic. La peur nous a fait prendre conscience, nous avons été secoués, nous ne sommes plus les mêmes, nous avons changé. Nous avons tellement eu peur de mourir que nous sommes devenus très spirituels du jour au lendemain. Nos yeux se sont ouverts, le peuple est maintenant réveillé. Nous sommes passés à une autre dimension et maintenant nous avançons avec foi, avec fraternité, dans la prière et dans l'amour. Nous ne faisons plus semblant. Parce que pour nous, les choses sérieuses ont commencé. Alors si c'est cela le scénario, on peut se réjouir. Il vaut mieux que les circonstances difficiles nous changent pour le mieux, au lieu de nous endurcir dans le mal. Mais on pourra quand même regretter qu'on ait besoin de ce genre de crise pour prendre conscience, qu'il faille une situation catastrophique pour nous amener à finalement comprendre et à mettre en pratique ce que nous savons déjà. En effet, avant que le virus n'apparaisse, nous savions tous que la mort pouvait nous surprendre à tout moment. Nous savions tous qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. Nous savions tous qu'il faut vivre dans la foi, dans la fraternité, se soutenir les uns les autres. Alors soyons clairs, cela ne signifie pas que cela ne se faisait pas avant et qu'il n'y a ni amour, ni fraternité, ni solidarité dans nos églises chrétiennes, pas du tout. Mais avouez avec moi que ces jours-ci, le ciel a certainement dû embaucher du personnel en plus, au standard, car les appels sont beaucoup plus nombreux au trône de la grâce ces jours-ci, et dû à beaucoup de travail pendant cette période. Alors, au-delà de la manière humoristique de présenter les choses, si au moins cela nous amène, vous et moi, à repartir dans de meilleures dispositions, à vivre une vie de prière authentique, à nous aimer réellement, alors ainsi soit-il. Alors, deuxième réaction possible, lorsque nous sortirons de cette crise, eh bien, c'est le naturel qui revient au galop, à la vitesse grand V. Alors pendant 2 ou 3 jours, nous laisserons l'effet coronavirus nous toucher encore. On fera quelques prières de ci, de là. On donnera quelques coups de téléphone pour nous assurer que tout va bien. Et puis très vite, les vieilles habitudes s'installeront à nouveau. Elles reprendront leur place. Le vieil homme enlèvera son masque et ses gants, puisque le virus n'a pas réussi à provoquer sa destruction. Les commérages, les 1000 ans, le refus de pardonner, les cancans, les comparaisons, les compétitions, la sélection des personnes qu'on choisit d'aimer ou pas, la jalousie, le refus de respecter les principes, la convoitise, le refus d'être fidèle à Dieu dans la dîme et les offrandes, etc. Tout cela peut revenir en force une fois la menace du virus éloignée. Et c'est bien justement là le risque pour nous, que le diable arrive encore une fois à nous couillonner, à nous anesthésier. Il nous fait croire que ce n'est rien, ce n'était qu'un mauvais temps passager. Le beau temps revient. On peut maintenant pêcher en toute sécurité. Le virus est parti et il nous laissera en paix. Alors si c'est le cas, si c'est vraiment ce qui nous arrivera après cette crise, eh bien, cela voudrait dire que la nature humaine est bien plus coriace qu'on ne l'imagine. Même la peur, la souffrance, le confinement, l'inquiétude et le nombre de victimes impressionnants causées par l'épidémie du coronavirus n'auront pas réussi à nous faire comprendre et à laisser Christ nous changer, nous réveiller, nous réformer et nous utiliser comme des instruments à son service, comme des témoins, des ambassadeurs de sa cause. Donc même une situation comme celle-là n'aura pas réussi à éveiller nos consciences pour que nous comprenions qu'avec ou sans épidémie, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre autrement que comme Jésus a vécu, c'est-à-dire dans l'amour, le respect, le pardon, la justice, la générosité, la fidélité, la tempérance. Avec ou sans épidémie, ce ne sera jamais une bonne chose de dire du mal des autres, de tricher, de haïr son prochain. Enfin, troisième possibilité, qui s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement de la seconde, l'épidémie est passée. Le confinement est terminé, les magasins sont à nouveau ouverts et on se souvient. Nous avons eu très peur, c'est vrai. Tout cela nous a fait réfléchir, mais au fond de nous-mêmes, on s'est dit, ça ressemble à la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Jésus n'est pas encore sur le point de revenir. On a encore le temps de danser. Le chat n'est pas encore rentré. Il n'y a plus d'empêcheurs de pécher en rond. Les choses auraient pu être bien pires. Mais avant de changer, avant de réformer nos vies vraiment selon la volonté de Dieu, on va peut-être attendre vraiment qu'on vienne chez nous, par exemple, nous demander de renoncer à Jésus. On attendra de voir que certaines personnes soient jetées en prison. On attendra de voir les églises brûlées, les enfants de Dieu persécutés ou même exécutés. On attendra l'apocalypse en réalité, le feu, la grêle, le soufre. Et là, on commencera à parler de choses sérieuses. Là, vraiment, on pourra commencer à remettre certaines choses en question. Là, on pourra commencer à faire une réforme. À ce moment-là, on pourra commencer à voir si on peut abandonner le péché. Là, on va commencer vraiment à voir si on peut être fidèle et marcher dans l'obéissance et la sainteté. Alors, vous savez, pour donner une illustration, c'est un peu comme ce qui se passe lorsque sur la route, on croit apercevoir une voiture de police sur le bas-côté. On ralentit brutalement. Notre cœur fait blip. On lève le pied. On attache la ceinture rapidement, on laisse tomber le téléphone portable sur le siège et on passe près de la police avec la peur au ventre. Mais une fois la voiture de police dépassée, là on respire. C'est bon, ils ne nous ont pas eus. On regarde dans le rétroviseur quelques secondes pour être sûr qu'ils ne nous suivent pas et puis on recommence à rouler à 140. On reprend le téléphone portable au volant et c'est reparti pour un tour. La nature humaine, nous sommes vraiment incorrigibles. Alors, je sais qu'aucun de vous qui m'écoutez n'avait jamais fait ça sur la route, mais pour le reste d'entre nous, pour les gens normaux, nous avons vraiment maintenant une opportunité de réfléchir. Et si cette crise sanitaire mondiale, nous la considérons plus que comme une simple voiture de police sur le côté de la route, ou comme juste un radar devant lequel nous ralentissons pour passer à la bonne vitesse, avant de reprendre de plus belle notre course folle une fois la machine à flasher dépassée. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais je vous invite, je nous invite, tous, à commencer par moi, à nous regarder dans le miroir, à nous interroger sur la réalité de notre engagement avec Christ, à nous poser les vraies questions. Si Jésus revenait aujourd'hui, serions-nous prêts à l'accueillir sans trembler ? Ai-je vraiment besoin d'un virus, d'une épidémie pour me conduire dans le sentier de la justice, de l'obéissance et de la sainteté? Ai-je besoin d'avoir peur de mourir, de ne pas trouver de place dans les hôpitaux pour être un homme ou une femme de prière qui aime et qui pardonne comme Jésus? Ou alors pour être un jeune qui aime Dieu et qui le sert de tout son cœur, sans partage? Vous et moi, nous sommes sur le même bateau. Les circonstances que nous ne maîtrisons pas nous servent parfois de piqûres de rappel pour nous rappeler que le moment est venu de marcher comme Jésus, de vivre dans la prière, de pratiquer l'amour chrétien, la fraternité et la fidélité. En fait, ce que je souhaite que nous tous nous comprenions, c'est que la vie chrétienne est une vie formidable. Quand on a vraiment compris qui est Jésus, quand on a accepté son plan pour nous, quand on a accepté son pardon et son salut gratuit, alors on vit vraiment une vie de joie, de vraie joie, de paix et de sérénité. On ne vit pas dans l'inquiétude, même si les choses ne sont pas toujours faciles et que dans notre humanité, nous traverserons des moments qui nous secoueront. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne se réjouissent évidemment pas de la crise actuelle, mais elle ne leur fait pas peur car ils ont lu la Bible et ils savent comment l'histoire se termine. Ces chrétiens-là, et j'espère que vous et moi nous en faisons partie, ils traversent les crises en ayant confiance en Dieu, et cela n'empêche pas, comme je l'ai déjà dit, de faire preuve de sagesse et de bon sens en respectant les mesures qui permettent de ne pas propager la maladie. Mais ils sont et ils demeurent vigilants en s'assurant plus que jamais d'être en Jésus, de vivre pour lui et avec lui. Nous n'avons pas de crainte à avoir. La chose vraiment grave qui devrait nous faire peur, c'est de marcher sans Jésus, de nous appuyer sur notre propre sagesse et de croire qu'on aura toujours le temps. Jésus n'est pas l'auteur du mal, même s'il autorise en attendant le moment que lui-même a choisi pour mettre un terme à ce monde de péché et à son cortège de souffrance et de mort. Nous savons que ce monde ira de mal en pis. Nous savons que le diable sait qu'il a peu de temps et que des épreuves viendront jalonner notre parcours. Mais comme disait Jésus, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons une trop belle espérance pour sombrer dans la déprime. Que votre cœur ne se trouble point, dit le texte biblique. Nous connaissons quelqu'un de trop extraordinaire, formidable et bon pour avancer avec la peur au ventre. Alors, lorsque tout cela sera terminé, ne laissons pas le naturel nous rattraper. Mais profitons de l'occasion, aussi malheureuse soit-elle, pour grandir dans notre foi et dans la charité chrétienne. Soyons des hommes et des femmes de prière. C'est dans le calme et la sérénité que sera votre force, dit la Bible. Alors avançons et soyons prêts. Souvenez-vous que la présence de Jésus et l'action du Saint-Esprit sont les meilleurs antiseptiques qui existent face au péché. Bon courage à tout le monde et rappelez-vous, nous pouvons parler à Jésus sans masque et sans gants. Nos corps sont peut-être en confinement, mais notre esprit n'est pas confiné. Nous pouvons l'élever vers le Dieu du ciel à tout moment et où que nous soyons. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Et n'oubliez pas, nous savons d'où nous venons et où nous allons. À bientôt.